Puis le gars fait comme, je suis désolé. Puis d'après moi, là, on est dans pas long, là, ça va être vraiment une très, très ancienne histoire. Selon moi.
Nous autres, on va passer à d'autres histoires parce que vraiment, celle-là, je pense qu'on en a trop parlé.
Absolument.
On va maintenant recevoir en studio celui qui est chercheur et spécialiste du vieillissement, le docteur Éric Simard. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Vous êtes aussi auteur de livres, notamment Vive jeune plus longtemps et Vive jeune deux fois plus longtemps.
Hein?
Là, la Journée internationale des aînés approche. Pouvez-vous nous donner la recette de la fontaine de jouvence qui va nous permettre de vivre deux fois plus longtemps, vous?
Il y a plusieurs réponses à votre question. Avant tout, je vous dirais que ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que la façon dont vivaient les centenaires dans différentes populations, différents peuples qui sont souvent reculés de par le monde, là, qui sont souvent dans des endroits assez reculés, c'est pas si compliqué que ça de mettre ça en application, mais on sait très bien que ça a vraiment un avantage, un impact considérable sur la façon dont on veut vieillir, puis la prévention des maladies associées au vieillissement. Donc, il y a deux grandes facettes, je vous dirais. C'est que d'un côté, c'est les saines habitudes de vie, les recommandations. On en connaît plusieurs, mais on connaît pas tout à fait tout, je vous dirais. Puis il y a des choses qu'on n'explique pas suffisamment simplement, je dirais, pour la population. Et de l'autre côté, il y a les avancées de la science. C'est qu'on est en train de découvrir des molécules qui ont des gros impacts sur les mécanismes du vieillissement primaire, qui vont permettre de garder les gens en santé beaucoup plus longtemps.
Comme par exemple,
ben écoutez, les travaux qu'on fait avec l'Université Concordia, on a découvert les meilleurs modulateurs du vieillissement primaire de l'organisme jamais décrits jusqu'à maintenant. On en a publié 6. Des découvertes qu'on a faites en 2014, on en a découvert 21 jusqu'à maintenant. Dans les 6 en question, là, pour vous donner des... parce que les 15 autres ont été gardés secrets encore. Il y a entre autres l'écorce de saule blanc, un extrait de l'écorce de saule blanc, duquel, entre autres, dans le passé, on a tiré l'aspirine, entre autres.
De l'écorce de saule?
Oui. Oui, l'aspirine provient d'un produit de santé naturelle à l'origine, en fait, qui était un extrait de l'écorce du saule blanc, qui contenait de l'acide salicylique. Et les 5 autres, en fait, c'est des molécules qui nous proviennent de plantes. Il y en a qui sont déjà connues pour leurs bénéfices santé dans le domaine des produits de santé naturelle, comme le ginkgo biloba, la valériane, la passiflore. Mais un qui est moins connu, en fait, qui devrait beaucoup vous intéresser vos auditeurs, c'est la graine de céleri. L'extrait, la molécule la plus, actuellement, la molécule la plus efficace à la plus faible dose qu'on a trouvée, en fait, jusqu'à maintenant, elle nous vient de la graine du céleri. Le gros intérêt, ce qui est intéressant, c'est que la graine de céleri, on s'en sert dans l'alimentation humaine couramment.
Ben oui. Dans mes sandwichs aux œufs, il y en a toujours.
Non, mais on remplace.
C'est sûr que j'ai l'air jeune.
On remplace également les produits de préservation. Je pense, par exemple, là, il y a toutes les saucisses là, qui vendent là, avec des produits 100% naturels. Et il me semble qu'il y a de la graine de céleri ou quelque chose du genre là-dedans. Là.
Oui, il y en a autour de vos Bloody César, autour du verre. Il y en a dans beaucoup d'épices à soupe. Il y en a dans plein de choses.
Mais pour vulgariser, là, puis qu'on comprenne bien le lien entre la graine de céleri puis un ralentissement, voire un arrêt du vieillissement, en mots qu'on peut comprendre, là, qui sont pas trop scientifiques, c'est quoi?
Oui, bien, ce qui est intéressant du côté du vieillissement, c'est qu'on a longtemps pensé que le vieillissement, c'était tout simplement une accumulation d'usure avec le temps. On sait maintenant, depuis tout récemment, en fait, les processus du vieillissement sont attachés à la vitesse à laquelle on se développe. Autrement dit, tous les petits organismes se développent rapidement, vont vieillir très vite, parce que c'est les mêmes voies métaboliques, les mêmes mécanismes cellulaires qui sont responsables de la croissance quand on est plus jeune, qui vont être responsables aussi du vieillissement plus tard dans notre vie. Fait qu'une poussée de l'organisme à vieillir carrément. Et cette poussée d'organisme-là est attachée à des mécanismes qui sont gérés, entre autres, par l'apport énergétique. Fait que là, on va vous raconter quelque chose d'intéressant. L'apport en sucre accélère le processus de vieillissement. Va augmenter l'incidence de toutes les maladies associées. C'est la même chose. Donc, le contraire est vrai aussi, en fait. C'est que ce qui va avoir des impacts sur ces mécanismes-là, à ralentir le mécanisme en question, va réduire l'incidence des maladies associées au vieillissement. Fait que, puis là, techniquement, bon, qu'est-ce que ça peut représenter pour le commun des mortels? On va pas vivre 150 ans, là. Réjouissez-vous pas trop vite.
Non, OK, mais je vous arrête tout de suite. Est-ce que techniquement, suite à ce que vous êtes en train de découvrir, puis techniquement, ça se peut? Une personne pourrait vivre 150 ans ou plus, même.
Éventuellement.
En fait, si vous voulez que je vous dise plus, qu'est-ce qui se peut techniquement? Parce que ça, on n'est pas sûr.
Okay.
Il y a différentes raisons que ça serait trop long à élaborer. Là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'impact qu'on va avoir sur les mécanismes du vieillissement va avoir un impact de 20 à 30 ans. Moi, j'avais avancé 20 ans dans mon premier livre. À l'époque, en même temps, en fait, on avait un scientifique américain, le directeur du Centre de recherche sur le vieillissement de Californie, qui, lui, mentionnait 30 ans. Puis malheureusement, je vous dirais que probablement que lui, il a raison. Mais ce que ça représente, grosso modo, gardez à l'idée, là, c'est pas 30 ans de plus au bout de la ligne. La moyenne nord-américaine de longévité de 85 ans, on va commencer à être affecté par les maladies associées au vieillissement en moyenne à 70 ans. Techniquement, ce que ça voudrait dire, le 20 ou le 30 ans, là, c'est d'arriver d'avoir quelqu'un, mettons, de 50 ans qui va arriver à 70 ans avec les capacités, justement, puis l'apparence d'une personne de 50 ans.
OK. Il est pas à l'abri des maladies, mais son vieillissement a beaucoup
plus
ralenti.
Plus lent, oui.
Oui, c'est ça. Il va rester en santé beaucoup plus longtemps. Il va garder ses capacités plus longtemps. Okay. C'est surtout les capacités de profiter de la vie. Et ce que les populations centenaires nous ont appris, c'est exactement ça, entre autres. Les gens qui ont des habitudes de vie parfaitement saines, qui vont appliquer, en fait, la culture des populations centenaires, vont habituellement, disons qu'on, bon, on reprend l'exemple que j'ai donné tantôt, là. En Amérique du Nord, on a une moyenne d'espérance de vie de 85 ans pour mesdames, à peu près 84 ans pour messieurs. On est en train de les rattraper, là. Et on regarde les populations, puis on va être affecté des maladies associées au vieillissement pendant à peu près 15 ans. Les gens des populations centenaires, bon, un centenaire ou un super centenaire, ce qu'on appelle un super centenaire, c'est une personne qui va se rendre à 110 ans. Rendu à 110 ans, là, la moyenne d'être affecté des maladies associées au vieillissement est de 6 ans. Ça veut dire, si on s'est calculé, que ces gens-là sont rendus à 100 ans avec la pleine capacité encore de profiter de la vie. Wow. Il n'y avait pas la santé d'une personne de 20 ans, mais il était encore capable de profiter pleinement de la vie. Puis là, les choses se sont compliquées, ils ont commencé à dégénérer, ils sont morts à 110 ans. Fait, vous comprenez un peu ce que pourrait apporter, finalement, les découvertes qu'on est en train de faire, c'est ça. C'est de permettre aux gens d'être en santé beaucoup plus longtemps.
Mm. Wow. J'essaie juste de comprendre, là, je reviens à vos découvertes, là, parce que on entend souvent parler, par exemple, que des gens, l'alimentation a un impact majeur dans notre processus de vieillissement. On entend parler qu'une diète méditerranéenne là, qui favorise la longévité, on parle entre autres grâce au fromage feta, à l'huile d'olive, oui, aux olives tout court, à toutes sortes aux poissons plus que les viandes. Est-ce que ça aussi c'est un facteur, là, ou c'est...
Ben, c'est un très, très gros facteur. Je vous dirais que probablement que le plus gros facteur, c'est la qualité de la vie sociale, outre l'alimentation.
Ah bon?
Oui. Mais dans l'alimentation...
C'est la solitude qui fait vieillir? C'est ça que vous voulez dire?
C'est multifactoriel, en fait. Hein. C'est que, écoutez, dans mes livres, j'ai décrit 4 grands facteurs les plus importants, en fait, pour les habitudes de vie reliées au vieillissement, avec un 5e facteur que j'ai appelé un facteur facilitant. Vous allez comprendre pourquoi. Les 4 grands facteurs sont des facettes qu'on parle généralement, mais à laquelle, des fois, on n'accordera pas autant d'importance. Donc, l'alimentation, l'activité physique, tout le monde en parle, ça va de soi. La saine gestion du stress, de l'anxiété.
OK.
J'ai inclus dans ça le fait de bien dormir, en passant. Et la qualité de la vie sociale. La qualité de la vie sociale a un impact tellement important en santé humaine. Je vais vous donner un exemple simple, là, qui est bien agréable à raconter, en fait. C'est que l'Université à Harvard a eu l'idée un peu farfelue de suivre des gens pendant 75 ans. Parce qu'ils se sont dit, sur l'espace d'une vie humaine, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Ils ont suivi tous les paramètres. Ils ont questionné les gens à partir de l'âge de 2 ans, à toutes les 2 ans, en fait. Quand on commençait à avoir des conjoints, des conjointes, des enfants, ils ont questionné toute la famille. Ils ont regardé tous les bilans de santé. Fait qu'ils ont épluché, en fait, une population. 725 personnes pendant 75 ans. Pour sortir au bout de la ligne avec la conclusion, dans le fond, là, que ceux qui avaient la meilleure qualité de la vie sociale, puis là, faites attention, là, les amis Facebook, ça compte pas là-dedans. Là. Ça prend des vrais amis, ça prend des gens sur qui on peut compter, ça prend des gens avec qui, entre autres, on va parler de nos émotions. Ça, c'est une bonne façon de savoir si on en a ou si on n'en a pas. Si, si vous ne parlez pas, si vous parlez pas de vos émotions avec vos amis, c'est pas des vrais amis.
Non.
Ouais. Fait que la qualité de la vie sociale était tellement importante qu'à déjà à 50 ans, quand ils regardent les données dans le passé, là, ils auraient été capables à 50 ans de prédire tous ceux-là qui allaient bien vieillir. Tous ceux-là qui allaient garder leur capacité cognitive le plus longtemps possible. Ceux-là qui allaient rester en santé le plus longtemps. Ça a un impact suffisant pour être capable d'identifier à l'avance tous ceux-là qui vont...
Wow.
Donc, ça veut dire que la vie sociale a réellement un impact beaucoup plus important qu'on pensait. L'élément, gardez à l'idée là, que j'ai mentionné, que un facteur facilitant, c'est le fait d'être fondamentalement positif. Les gens qui sont fondamentalement positifs, là, c'est facile de penser que ça va faciliter tout le reste. Le monde qui sont négatifs, d'un, ils n'auront pas une bonne vie sociale parce que ce sont pas agréables à côtoyer. Mm-hmm. Puis en même temps, ceux qui sont fondamentalement positifs vont automatiquement avoir tendance à être plus actifs, à faire attention à leur alimentation, ils vont avoir une meilleure gestion
ça
du
va
stress, tout
va
aller avec.
Un esprit sain dans un corps sain, dans le fond, là, on a souvent entendu cette expression-là, ça fait cliché, mais là, ce que vous dites là, c'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça. Puis pour bien répondre à votre question sur l'alimentation, pour y revenir, on commence à comprendre des principes qui sont fondamentaux au niveau de l'alimentation. D'un, c'est que c'est moins compliqué qu'on pensait. Les recommandations actuelles d'alimentation du guide alimentaire canadien, là, ben bingo, il est pile en ligne avec les recommandations de longévité qu'on tenait, en fait, pour la population.
OK.
Puis c'est bien plus simple qu'on pense. Gardez à l'idée, là, 50% de votre alimentation devrait être des légumes. Là-dedans, on inclut les fruits qui devraient servir surtout de dessert en tant que tel, mais la grande majorité devrait être des légumes, 50%. L'autre quart devrait être des produits de grains entiers. Le pain, Les pâtes alimentaires, s'ils ne sont pas de grains entiers, on n'en mange pas. C'est aussi simple que ça. Okay? Ceux-là qui ne sont pas de grains entiers, ce ne sont pas bonnes pour la santé. Mm. Ce qui est bon pour la santé, c'est les grains entiers. Et le dernier corps, en fait, c'est de considérer les protéines. Les protéines végétales avant tout, le poisson, les noix, la viande blanche, puis on essaie d'oublier la viande rouge. Okay? Et là, je viens de vous résumer tous les grands principes d'alimentation pour exact. Une longévité. C'est juste ça. Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Ce qu'on est en train de découvrir qui va vous intéresser, c'est qu'il y a des éléments quand même dans l'alimentation qui ont un poids beaucoup plus important qu'on pensait auparavant. Ce qu'on a annoncé au mois de mars avec l'Université Concordia comme découverte, là, je vais vous expliquer quelque chose qui n'a pas été relevé en fait par les médias de l'époque parce que c'était probablement trop compliqué pour être présenté. C'est que on a des molécules qui ont des effets synergiques. On l'a découvert à l'Université Concordia, on a des molécules qui ont des effets synergiques avec toutes les autres molécules qui ont des impacts sur le vieillissement. Ces molécules-là en particulier, si tu les retrouves dans l'alimentation, automatiquement, tu vas avoir toutes les autres molécules qui pourraient être bénéfiques pour le vieillissement, tu vas avoir un effet synergique avec. Ils vont avoir un poids démesuré par rapport à le poids alimentaire qu'on leur donnerait habituellement. Il y a un contexte qui a émergé au cours des dernières années pour expliquer ça, qu'on appelle un peu de la géographie alimentaire, si vous voulez. C'est un tenir compte d'un mapping de tout ce qui est consommé. Mais on comprenait mal, en fait, pourquoi, dans certains cas, certaines de ces molécules-là auraient des impacts plus importants. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez, en fait, d'alimentation méditerranéenne.
Oui.
Il y en a deux qu'on connaît très bien. C'est le resvératrol, du vin rouge,
oui.
entre autres.
On entend parler
et
souvent,
les polyphénols d'olive.
Oui.
Et les polyphénols d'olive ont un très, très gros impact, en fait, sur les mécanismes du vieillissement primaire de l'organisme.
Mais à part le resvératrol, à part dans le vin rouge, il est où? C'est-tu genre gazons-nous, là, parce que...
Non, un verre par jour.
Ben là, oui puis non, là. Si la solution, c'est d'être gazé à journée longue pour rester jeune, mais moi, j'ai pas de problème.
Non. Écoutez, en fait...
Non, mais ma vraie question, c'est ça se trouve-tu en dehors du vin rouge?
Les arachides, le chocolat noir.
Ah!
Mais honnêtement, il y en a quand même pas beaucoup dans les arachides, le chocolat noir. La pleure des raisins, ça va de soi, en fait. Hein? Il y a la raison pour laquelle il est dans le vin rouge, parce qu'il vient de la pleure du raisin. On en retrouve, oui, dans certains aliments, en petite quantité. Là. On en retrouve dans l'alimentation. Le vin rouge, c'est clair, en fait. Je vous dirais que les polyphénols d'olive aussi, surtout dans l'huile d'olive, dans les olives en tant que telles, la qualité de l'huile d'olive est très importante.
OK.
Donc, ça va à peine d'investir là-dedans. Puis là, je reviens aussi parce qu'au début, vous avez parlé d'écorce de saule, ça. Ouais. Comme dans quoi qu'on en retrouve, là? Comment je m'ajoute
dans
ça?
Dans l'aspirine?
Vous savez que je peux acheter ça si je veux m'en procurer?
La valériane, la passiflore.
Parce que moi, monter dans un arbre, là, je vais pas trop avec ça, là.
Non. aller gruger non
ben
plus
oui,
direct dessus.
Exactement. T'as
pas avec ça.
Ça, ce qui est compliqué, c'est que ça prend un usage, hein, je vous dirais, qui est justifiable et justifié. C'est qu'on prend pas des extraits de plantes. Le fun de prendre des extraits de plantes, puis c'est pas n'importe lequel qui vont contenir non plus les molécules. Fait que je vous dirais que c'est sûr que l'extrait de saule, on l'a beaucoup étudié, on est en train de publier, on vient juste en fait de publier un nouvel article, on l'a annoncé hier. Parlant d'annonce, je vais pouvoir vous annoncer d'autres choses aussi. Mais on l'a annoncé hier, je crois. Ce qui est fabuleux dans le cas de l'écorce de saule, là, c'est que concevez en fait facilement là, qu'il y a trois étapes dans les découvertes qu'on fait. On découvre qu'il y a quelque chose qui est actif. On va découvrir la chose active en question, elle agit via quelle voie métabolique, quel type de mécanisme dans la cellule. Et la troisième étape, ça va être d'aller démontrer dans la cellule en question exactement ce qui s'est passé. Et là, c'est ça qu'on vient de faire. Dans le cas de l'écorce de saule, on a éclairci au complet tout l'impact qu'on avait au niveau du vieillissement. Puis c'est un des éléments actifs qu'on avait qui était le plus important.
Okay.
Donc, l'extrait spécifique qu'on utilise, mais lui, il n'est pas commercialisé encore.
Fait que là, vous allez pouvoir attendre si on veut s'en acheter.
Ouais.
Mais ceux qui en veulent plus, donc, ils peuvent se procurer vos livres. Il y a aussi un paquet d'activités qui s'en viennent pour la Journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre prochain. Docteur Éric Simard, chercheur et spécialiste du vieillissement.